Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression pour vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif, au travers de rencontres inspirantes, de partages d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, on parle écologie, économie et avenir de la planète avec l'un des plus grands économistes, prospectivistes et penseurs de notre temps, Jérémy Rifkin. Jérémy Rifkin conseille les gouvernements en Europe, mais aussi l'Union européenne et les autorités chinoises sur la troisième révolution industrielle et les transitions numériques, écologiques et environnementales. Plus proche de nous, il conseille également les Hauts-de-France. Dans son dernier livre, Le New Deal vert mondial, Pourquoi la civilisation fossile va s'effondrer d'ici 2028 et le plan économique pour sauver la planète, publié aux éditions Les Liens qui libèrent, Jérémy Rifkin nous explique pourquoi notre civilisation fait face à la plus grande crise de l'histoire de l'humanité. Pourquoi la transition énergétique est inéluctable. Pourquoi le solaire et l'éolien sont l'avenir. Il nous explique également quels sont les paradigmes de la troisième révolution industrielle en cours et comment cette révolution va transformer nos échanges, la vie des populations et potentiellement contribuer à l'émancipation de la femme. Il nous raconte aussi pudiquement son parcours, ses parents, sa jeunesse, son engagement, tout en enjoignant la jeunesse à prendre le pouvoir pour devenir acteur de son destin. Jérémy Rifkin, bonjour.
Bonjour.
Merci de me recevoir et de recevoir Blooming You aujourd'hui.
My pleasure.
Alors, vous commencez votre livre avec un état des lieux sur le dérèglement climatique alarmiste. Vous citez des rapports de scientifiques, mais aussi l'ONU qui a émis un avertissement inquiétant en octobre 2018 pour dire que les émissions responsables du dérèglement climatique s'accélèrent et que nous sommes au seuil d'une série de catastrophes de plus en plus importantes qui mettent en danger la vie sur Terre. Alors, Jérémy Rifkin, quelles sont et quelles seront les conséquences de ces bouleversements écologiques sur nos vies?
C'est vraiment une question très vaste. Je vais commencer par vous dire qu'il y a certaines choses que nous connaissons déjà au sujet de la façon dont le monde sera d'ici quelques années. Voici le contexte qui changera notre façon de vivre, une façon à laquelle nous n'avons jamais pensé précédemment. Nous sommes en ce moment en train d'entrer dans le troisième siècle de l'ère industrielle. Et l'ère industrielle est construite sur une civilisation de l'énergie fossile. Il y a 200 ans, au Royaume-Uni, on a creusé sous la terre et en fait on a profané les cimetières d'êtres qui vivaient il y a des millions et des millions d'années et qui ont été transformés en charbon. Et on a créé toute une civilisation par l'exhumation de ces cadavres. Nos pesticides, nos constructions, nos matières plastiques, nos emballages, nos fibres, nos produits pharmaceutiques, tout repose sur cette civilisation. Nous avons tellement brûlé de ce carbone et de ces cadavres qui se sont transformés en charbon et en pétrole, nous avons énormément de CO2 dans l'atmosphère. Et ce CO2 bloque le cycle de la chaleur. C'est-à-dire que la chaleur est bloquée sur Terre et ne peut pas s'évaporer. Chacun a une histoire à raconter. Mais je voudrais vous expliquer de quoi il s'agit exactement. Le changement climatique change le cycle de l'eau. Nous sommes une planète liquide. Notre écosystème s'est développé au cours de millions d'années, basé sur la façon dont le cycle hydrologique et les nuages ont créé ce cycle de l'eau. Voilà le problème. Pour chaque degré de température supplémentaire, en raison des émissions de carbone, l'atmosphère prend plus d'eau de la Terre et la chaleur force les précipitations. Il y a des précipitations qui sont beaucoup plus concentrées et il y a des événements hydrologiques qui se créent de façon qu'on n'a jamais vue. On a eu un vortex polaire l'année dernière aux États-Unis, des chutes de neige énormes et des températures qui atteignaient 60 degrés en dessous de zéro. Et puis au printemps, il y a eu des inondations énormes. Les récoltes entières ont été perdues. Des gens ont dû quitter leur maison. Ils n'avaient pas d'assurance contre les inondations. Ils ont été ruinés. Et puis après, on a les sécheresses et les feux. La Californie est en feu depuis des mois. Il y a les environs de Los Angeles qui ont dû être évacués. Il a fallu fermer certaines des centrales d'énergie parce qu'on craignait que le feu ne les détruise. Et puis après, il y a la saison des tempêtes, des catégories 4, 5, 6, extraordinaires qui ont atteint les côtes et ont détruit des nations entières. Tout ça est anormal. Et toute région du monde peut raconter la même histoire. Nos systèmes ne peuvent pas migrer suffisamment rapidement pour pouvoir suivre ce changement dans le cycle de l'eau. Et ils s'effondrent. Et je voudrais bien que les gens qui nous écoutent le sachent. Nous sommes à la veille de la sixième extinction des espèces en temps réel. Il y a eu 5 extinctions de vie au cours de 500 millions d'années, bien avant les êtres humains sur Terre. À chaque fois, il y avait vraiment, il a fallu des millions d'années avant que la vie ne revienne sur Terre. Nous sommes au début de la sixième extinction de masse. Je veux que tout le monde entende ça. Les scientifiques nous disent qu'on va perdre probablement la moitié des espèces sur Terre au cours des 8 décennies à venir. La dernière fois qu'il y a eu une extinction de cette magnitude, c'était il y a 65 millions d'années. Nous sommes en train de dormir. Mais les millénials et la génération Z se réveillent parce qu'ils voient qu'il y va de leur vie. Il y a eu 3 grèves l'an dernier où des millions et des millions de jeunes de la génération Z et des millénials ont quitté l'école le vendredi dans des centaines de pays, ont quitté l'école pour manifester, y compris en France, 130 pays. Et ils ont exigé l'urgence climatique. Ils ont exigé que l'on transforme ce monde. Et ce n'est pas comme les manifestations qu'on a connues précédemment. Les gens se sont demandé, mais de quoi s'agit-il ? On a vu au cours de l'histoire beaucoup de manifestations, mais c'est la première révolte planétaire où toute une cohorte de gens à travers les pays se considèrent comme une espèce en danger. Toutes les vieilles frontières ont disparu. Nous considérons que nous sommes une espèce. Et c'est la première fois qu'ils considèrent que les autres créatures vivantes font partie aussi des espèces vivantes. C'est la première fois que l'on considère la biosphère comme faisant partie de leur monde. C'est un changement dans la conscience dans une période de temps extrêmement brève. Donc ce que nous voyons, c'est véritablement quelque chose, un changement extraordinaire. Et ça met le contexte qui nous dit où nous serons dans les 10-20 années à venir. Mais quelle est la vision économique dont nous avons besoin pour quitter en moins de 20 ans la civilisation carbone? Comment la déployer? Comment la finançons-nous? Quelle est la responsabilité de chaque citoyen, de chaque communauté? C'est là où il faut aller désormais. Il y a quelques bonnes nouvelles ici. La civilisation de l'énergie fossile s'effondre en temps réel. Ce qui se produit, c'est cela. Le soleil et le vent, l'énergie créée par le solaire et l'éolien, sont en train de s'effondrer en termes de prix. On ne le voit pas. Disons par exemple, je vous donne un dollar chaque jour, un dollar, deux dollars, etc. Et ça double chaque jour. Une fois qu'on arrive au-delà de 20 fois, le montant dépasse absolument tout ce que l'on sait. Pour la première fois, le coût de l'énergie solaire et éolienne a été en dessous du coût de l'énergie du charbon, par le charbon et par le nucléaire. Donc ce qui se produit désormais, c'est une panique dans l'industrie de l'énergie fossile. La banque Citigroup s'en sont aperçus. Il y a quelques années, ils ont dit, nous sommes assis sur des centaines de milliards de dollars d'actifs bloqués. Parce que maintenant, le solaire et l'éolien sont beaucoup moins chers que l'énergie fossile. Et tous les droits de recherche qui ont été acquis par les sociétés de l'énergie fossile, ce sont des actifs bloqués parce que ça ne sera jamais repayé. Il y a des oléoducs qui ne seront jamais rentabilisés, des raffineries qui ne seront jamais rentabilisées. C'est la plus grande bulle économique de l'histoire. Au cours des 3-4 dernières années, 11 000 milliards de dollars sont sortis des investissements en énergie fossile. Et ça doit intéresser les Français, parce que ici aussi en France, on investit encore dans les énergies fossiles. Mais Karl Marx ne s'en était pas aperçu. Des centaines de millions de gens ont mis des fonds dans les fonds de retraite pour leur retraite. C'est des milliards de dollars. Ce qui s'est produit, c'est que au cours de ces dernières années, ces fonds de pension publics, les villes, les pays, ont vu ce qui s'est passé avec les investissements qui ont été faits dans l'énergie fossile. C'était la banqueroute. Donc, toutes les sociétés qui étaient basées sur le charbon n'ont plus d'argent pour payer les retraites de leurs travailleurs. Donc, les grandes villes, Londres, New York, Melbourne, Johannesburg, ont quitté, au cours de ces dernières années, les fonds de pension qui étaient basé sur l'énergie carbone, parce qu'ils ne veulent pas que tous les employés, tous les travailleurs se retrouvent dans la même situation. Le marché ne crée pas les infrastructures pour un changement de modèle. Ce sont les gouvernements qui doivent le faire. Si vous avez vu au cours des COP, les villes, il y a 9000 villes qui ont signé cette COP21 et qui vous montrent à chaque fois quelles sont leurs réalisations. À chaque fois, vous allez dans une ville et on vous montre une dizaine d'autobus électriques et puis c'est tout. Mais maintenant, ces investisseurs veulent investir dans la nouvelle énergie, mais il n'y en a pas. Donc, voilà où nous en sommes pour l'instant. Il faut faire un pas en arrière et nous poser la question. Quel est le changement de modèle économique vers la troisième révolution industrielle? Et c'est de cela qu'il faudrait parler.
Alors, dans votre livre, vous empruntez une citation de Benjamin Franklin. Faire bien en faisant du bien. Doing well by doing good. Et vous dites, je cite, « Il n'est ni nécessaire ni souhaitable de maintenir une frontière étanche entre pratiques commerciales moralement et socialement correctes et performances financières, la dichotomie ne tient pas, puisque bien faire en faisant du bien améliore les résultats. » Faire bien en faisant du bien est-il le nouveau mantra du marché?
On peut aller au-delà de cela. Je voudrais vous décrire ce qu'est la troisième révolution industrielle. C'est bien, en fait. Il y a eu 7 changements de paradigme dans l'histoire de l'humanité. Pas plus. Ce qui arrive à un certain moment de l'histoire, c'est qu'il y a 3 technologies qui convergent pour créer une technologie qui prendra plus d'êtres humains pour qu'ils puissent se réunir de façon plus compliquée, complexe, pour organiser différemment le gouvernement et la vie sociale. Voici les 3 composants de cette révolution. C'est une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle énergie et une nouvelle logistique pour pouvoir mettre ensemble ces 3 éléments et réunir des collectivités plus importantes. C'est du bon sens, tout simplement, même si vous ne l'avez jamais vu dans vos livres de classe. En biologie, chaque cellule doit avoir une façon de un moyen de communiquer, chaque cellule doit avoir une source d'énergie pour survivre, chaque cellule doit avoir une motilité, une mobilité. Et je vois que vous commencez à sourire ici. Chaque organisme doit avoir une membrane semi-perméable pour orchestrer c'est relation. Eh bien, les habitats, c'est notre membrane semi-perméable. Ce que nous avons cette révolution qui change l'habitat. Et c'est exactement ce que chaque organisme doit faire. Mais ici, ce sont des prothèses qui nous permettent d'avoir des collectivités plus importantes. Nous sommes devenus un organisme social, nous, l'humanité. Nous sommes véritablement au 21e siècle avec la révolution de la communication qu'est l'Internet. Il y a 4 milliards d'individus qui sont véritablement reliés. Il y a maintenant des appareils qui coûtent moins de $25.
Et
cet Internet de la communication se converge avec un nouvel Internet de l'énergie. Nous sommes des millions d'acteurs, des familles, des associations, des PME, des PMI, des gouvernements qui produisent leur propre énergie solaire et éolienne. Ce qu'ils n'utilisent pas, ils le renvoient dans un Internet numérisé et ils partagent cette ils partagent l'énergie de la même manière qu'on partage le divertissement et la communication. Et ces deux internets convergent avec un troisième internet, c'est l'internet de la logistique et de la mobilité, avec des véhicules à pile à hydrogène qui sont rechargés par l'énergie solaire et éolienne.
Et
ces véhicules seront partagés et ils pourront se mouvoir grâce aux algorithmes générés par les autres internets. Nos bâtiments devront être totalement rénovés pour qu'ils puissent résister aux événements climatiques. Chaque bâtiment deviendra un nœud. Chaque bâtiment deviendra un centre de données pour qu'on puisse gérer nos propres données et mettre de côté tous ces géants Google, Facebook et autres. Chaque bâtiment deviendra un centre de génération d'énergie solaire et éolienne. Chaque bâtiment deviendra une station de recharge pour les véhicules électriques. Et l'énergie qui sera stockée dans les véhicules pourra être renvoyée, s'il y en a besoin, vers les réseaux d'énergie. Et ces bâtiments deviendront pleins, ils sont pleins de capteurs avec, pour pouvoir commencer à créer un système nerveux local à travers le monde. Les jeunes le savent déjà. Ils considèrent le monde et ils sont déjà en train de prendre des leçons grâce à des systèmes de leçons à travers le monde entier. Et il y aura une communication à travers les océans, ce qui est déjà commencé. Tout ça n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Ils pourront partager de la mobilité et de la logistique également. Ce que ça signifie, c'est qu'il y a un grand potentiel de démocratisation de la vie économique. C'est le côté lumineux. Parce que vous savez, il y a du soleil et du vent partout. Il ne faut pas attendre qu'une grande société pour avoir de l'électricité. Il ne faudra pas faire confiance pour que des grandes entreprises vous donnent du soleil et du vent. Vous pouvez l'avoir facilement. Vous pouvez avoir des réseaux sociaux facilement. Vous pouvez contribuer à la connaissance du monde directement par Wikipédia. C'est tout ça est une façon de partager la connaissance et de partager l'énergie et le savoir. Mais il y a un côté difficile, et c'est le darknet. C'est un grand problème. Comment nous assurer que ça soit sûr, que chacun ait accès à l'Internet? Comment nous assurer que le gouvernement n'utilise pas nos données pour s'immiscer dans les affaires d'autres gouvernements, ce qu'ils font déjà? Comment nous assurer que les grandes sociétés d'Internet ne prennent pas nos données et les vendent, les commercialisent, et nous les revendent en créant véritablement en nous imposant les choses contre notre volonté? Comment se protéger contre le cyberterrorisme, la cyberguerre et les malwares? Eh bien, le darknet, c'est très impressionnant. Il faudra véritablement investir beaucoup dans ce domaine-là pour qu'on puisse avoir un système plus distribué, pour que chacun ait son centre de données privé, pour que chacun puisse produire son énergie. Et plus le système est distribué, s'il y a une attaque, cyberterroriste, on peut se décrocher des réseaux nationaux grâce à des technologies à $25 et se réagréger de façon décentralisée. Ça se fait déjà. Donc, aussi longtemps que c'est distribué. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que...
What's happening? They're called edge data centers.
Ce sont des centres de données edge. C'est un nouveau phénomène. Il apparaît que toutes les données que les capteurs captent sans arrêt, c'est énorme. Des grandes sociétés comme Google et autres ne peuvent pas les traiter. Il y en a trop. Ce sont des grands centres centralisés de données. Ils ne pourront jamais contrôler toutes les données qui sont fournies par les capteurs. Donc, ces centres de données Edge sont beaucoup plus petits. Chaque maison, chaque entreprise, chaque voisinage peut avoir son propre centre de données. Et on peut partager localement. Et c'est à vous de déterminer quand vous entrez et quand vous décrochez du système. Seconde question, second problème, quand vous connectez le monde, le cloud est beaucoup trop lent. On va véritablement du cloud vers ce qu'on appelle le fog, c'est-à-dire le brouillard. Si vous êtes dans une voiture autonome, si vous êtes sur le point de faire un accident, le temps que la donnée aille vers le cloud et revienne, l'accident s'est déjà produit. Donc il faut avoir un centre de données beaucoup plus proche. Il faut que les données voyagent beaucoup plus rapidement. C'est une transition énorme. L'infrastructure détermine les capacités, vos forces et vos faiblesses, vos modèles d'entreprise. Le capitalisme n'a pas développé la première infrastructure de la révolution industrielle. Mais non, c'est la première révolution industrielle qui a créé le capitalisme. Parce que ça coûtait tellement cher d'extraire des énergies fossiles, aucune monarchie ne pouvait se le permettre. Donc c'est pour ça qu'il a fallu créer des grandes sociétés avec des millions d'actionnaires pour pouvoir investir dans ces industries-là. Donc quand il y a eu, au XIXe siècle, la première révolution industrielle, on a eu des marchés nationaux et des États-nations. C'est à ce moment-là que c'est apparu. La deuxième révolution industrielle au XXe siècle, c'était la mondialisation. Et avec des porte-conteneurs et des institutions internationales comme l'OCDE, le FMI, et on termine avec 500 sociétés mondialisées, centralisées, et qui sont responsables d'un tiers du PIB du monde, avec très peu d'employés, 67 millions de travailleurs. Les autres en bénéficient, mais le reste de l'humanité n'en bénéficie pas. C'est la nature de l'infrastructure, parce que tout devait être centralisé du haut vers le bas, propriétaire pour extraire et faire voyager ces énergies fossiles du lieu où elles étaient extraites vers les lieux de l'utilisation. Vous êtes beaucoup plus jeune, et cette énergie, cette nouvelle énergie doit être distribuée, elle est ouverte et transparente. Plus c'est faisable, plus en bénéficiez. Ce n'est pas un jeu à somme nulle, c'est latéralisé. Ce qui se passe, c'est qu'on passe de la mondialisation vers la glocalisation, globale, locale. C'est-à-dire que on peut discuter et on peut travailler les uns avec les autres à travers les océans sans avoir de société multinationale. Ça n'a plus rien à voir. C'est l'infrastructure qui crée des nouveaux modèles d'industrie qui sont petits, avec des PME, PMI de high-tech, localement, en coopérative, plus agiles, qui peuvent se réunir avec d'autres PME, d'autres PMI, de façon distribuée, latérale, dans toutes les régions à travers le monde. C'est ce qui se produit. C'est une métamorphose. Comment est-ce qu'on finance tout ça? Où est l'argent? C'est les 11 000 milliards de dollars qui sortent des énergies fossiles. Il y en aura plus. Ils ont besoin de projets sûrs. Ce qui signifie que, vous savez, je viens de Bruxelles au cours de ces dernières journées pour la création de ce New Deal vert pour l'Union européenne. Les États-nations vont créer les codes, les règlements, les normes et l'alignement. Mais ce sont les 350 régions de l'Europe qui devront déployer l'infrastructure, c'est-à-dire qu'elles doivent mettre en place des feuilles de route avec leur propre communauté. Ce qui se passe, c'est que tout cet argent qui sort de l'énergie fossile, eh bien cet argent doit s'investir dans les infrastructures de la troisième révolution industrielle. C'est du travail pour toutes les industries, pour les industries, pour l'immobilier, pour l'agriculture, pour le voyage, pour le tourisme. Toutes les industries sont impliqués là-dedans, c'est des millions d'emplois. Les robots ne peuvent pas poser des câbles souterrains. Les robots et l'intelligence artificielle ne font pas fonctionner l'énergie solaire et éolienne. Et ça ne rénove pas les bâtiments. Il faut des travailleurs. Comment le financer? Eh bien voilà. Est-ce que vous connaissez ESCO, ESCO? C'est les sociétés productrices d'énergie. Ce qui se produit ici, c'est qu'il y a un nouveau business model depuis une trentaine d'années. Mais là, ça prend de l'ampleur. La France doit mettre en place une banque verte. Chaque région de la France doit mettre en place une banque verte pour émettre des obligations vertes, pour pouvoir être investi dans cette énergie verte. Ces sociétés de production d'énergie sont en train de financer toute la transition. Elles payent pour cela. Ils ne sont pas, il n'y a plus d'acheteurs et de vendeurs, ce sont des fournisseurs pour des utilisateurs. C'est ce qui se produit déjà. Ce que cela fait, ce sont ces sociétés qui vont dire, on va rénover votre bâtiment, on va mettre une autre façon de fournir de l'énergie. On va mettre les stations de recharge des véhicules électriques. On va aider votre entreprise à accroître son efficacité par sa logistique, sa production. Nous payons pour tout cela. Notre façon de récupérer l'argent, c'est de l'efficacité que nous pourrons vous faire gagner. Si on vous fait gagner, si on ne peut pas vous faire gagner, on ne gagne rien. C'est les utilisateurs qui gardent tous les profits, tous les bénéfices. Ils resteront toujours dans la main. Ce n'est pas le capitalisme tel qu'on le connaît. Il n'y a pas d'acheteur ni de vendeur. C'est un capitalisme qui se transforme de nouvelles façons. Et moi, j'ai travaillé sur ces idées au cours des 20 et 30 dernières années. Ce que ça suggère, c'est que nous sommes tout à fait dans une nouvelle règle du jeu. Disons que vous êtes une entreprise locale, une coopérative, société de high-tech. Pourquoi vous ne feriez pas? C'est quelqu'un qui vient vous dire, vous n'avez rien à payer, c'est eux qui supporteront les pertes, mais si vous gagnez quelque chose, l'argent sera pour vous.
Mais c'est qui eux?
Les ESCO. Il y a des grandes sociétés qui le font déjà, mais chaque région doit avoir des PME en high-tech qui fera cela dans chaque région pour que l'entreprise soit locale, travaillera à l'échelle du monde, mais ça restera local.
Et quel
c'est une question d'échelle.
Quel est l'intérêt pour
So what's the interest of those ESCOs, if so?
Because they make the money based on the efficiencies they secure.
Parce qu'ils feront de l'argent à l'échelle des gains d'efficacité.
So let's say you're a homeowner. I come to you and I say I will retrofit your building.
Par exemple, vous possédez un lieu et moi je viens vous dire je vais rénover votre bâtiment. C'est moi. Moi je suis une société productrice d'énergie. Moi je ferai mon bénéfice sur la façon dont vous allez économiser l'énergie par rapport à ce que vous dépensez aujourd'hui. Si vous n'économisez rien, je ne gagne rien. Je prends un risque. Vous, le propriétaire, vous serez propriétaire de votre bâtiment.
Et
vos factures d'électricité vont baisser. Et je serai payé sur le delta, la différence entre ce que vous payez actuellement et ce que vous allez payer dorénavant, puisque vous aurez économisé. Vous ne payez pas plus, vous payez la même chose. Et moi, je pourrais faire mon retour sur investissement et vous, vous dépenserez moins pour votre énergie. Il suffit de le faire.
That's ESG taken to a business model. So you don't have to just have a statement.
C'est pas simplement c'est pas simplement des déclarations. Il y a un business model et ça fonctionne.
Ça fonctionne où aujourd'hui?
Where does it work currently?
Well, it's working in a lot of places. There are big
Ça fonctionne dans plusieurs endroits.
Siemens
le fait.
And Johnston Trains and
Johnston,
Philips Lighting
Philips Schneider Electric.
But they're doing a handful of projects.
Ils font une poignée de petits projets.
Mais
aucune société importante ne peut le faire partout.
Mais
ils ont une expertise, ces grandes sociétés. Ce qu'elles doivent faire, c'est aider les communautés locales à mettre en place ces feuilles de route. Et les PME, les PMI de votre génération, eh bien, les grandes sociétés pourront les aider à acquérir cette expertise. Et avec cette aide, avec cette formation, les communautés locales pourront mettre en place les feuilles de route et une partie de ces gains retourneront vers les grandes compagnies parce qu'elles vous auront aidé. Mais aucune grande compagnie ne peut le faire à votre place. Vous, votre génération, vous n'avez pas besoin d'avoir une formation beaucoup trop forte, beaucoup trop avancée. En fait, tout le monde pense recréer la roue. Non, les coopératives l'ont déjà inventée. Les coopératives appartiennent au peuple. Chacun a une voix. Les coopératives sont le meilleur secret des dernières centaines d'années. Le Crédit Agricole, par exemple, en France, c'est une des plus grandes banques françaises. C'est une coopérative. C'est la 10e banque au monde. Il y a des coopératives agricoles, des coopératives immobilières à travers le monde. C'est démocratique. Les bénéfices restent au sein de la communauté. Chaque personne membre de la communauté a une voix. Est-ce que c'est ça? Mais oui, c'est ça. Par exemple, en France, il y a des coopératives. En Espagne, en Italie, en Allemagne, il y a des coopératives. C'est jamais dit. Je sais que ça vous surprend parce que vous n'entendez jamais parler de ces choses-là. Ils sont à travers le monde. C'est comme si ça n'existait pas. Dans la communauté des affaires, tout le monde dit que ça n'existe pas. Mais c'est une des plus grandes banques françaises. C'est une banque coopérative. C'est un modèle de business totalement différent. C'est ça l'ESG.
Donc ça veut dire quoi pour les jeunes aujourd'hui en termes de formation? Pour pouvoir s'adapter à ces nouveaux business models.
Match those new business models. What does it mean for them?
Well, you know, the younger generation,
la jeune génération,
the college educated, the high school educated, they are so
qui ont une éducation des lycées, des facs, ils sont adaptés à cela. Il faut adapter les systèmes scolaires pour adapter la force de travail aux besoins. Il faut des gens des ouvriers qualifiés, des gens beaucoup plus qualifiés et à tout niveau de qualification. Moi, vous savez, ça fait la 6e année que je travaille avec la région Hauts-de-France. C'était la Picardie et le Pas-de-Calais autrefois. C'était une des plus grandes régions industrielles de la France. Ils ont formé les petits-enfants des mineurs. Ça prend 9 mois et ces enfants sont en train, donc ces jeunes aujourd'hui, ils sont en train de rénover les bâtiments et de mettre en place les productions d'énergie éolienne et solaire. Combien de temps ça prend pour pouvoir mettre des capteurs d'énergie solaire et d'éolien? Quelques semaines, quelques mois. Mais il faut former ces jeunes. Les écoles peuvent le faire, les lycées doivent le faire, les facs peuvent le faire, mais il faut faire rapidement parce qu'on a besoin de millions de gens pour qu'ils puissent mettre en place cette nouvelle infrastructure. Donc des gens qui sont avec une formation d'ouvriers qualifiés, d'ouvriers semi-qualifiés et d'ouvriers très qualifiés.
D'accord. Alors je ne résiste pas à vous poser la question, une question écologique qui rejoint un peu les problématiques liées au développement des éoliennes, de l'industrie verte, entre guillemets.
Development of green industry.
Notamment l'extraction des métaux rares.
Extraction of rare metals.
Qui est une problématique écologique forte.
Chaque journaliste semble vouloir poser la question sur ces métaux rares. Mais bon, je vous en parle. Comme si c'était le problème principal. Parlons des métaux rares, parce que j'en parle dans mon livre. Il est exact que nous utilisons des terres rares, des métaux rares pour vos téléphones portables et pour les batteries. C'est vrai aussi qu'il y a des alternatives pour les alternatives aux terres rares et aux métaux rares. BMW a annoncé qu'il mettrait en production un véhicule électrique sans lithium dans la batterie. Sans terre rare, sans métaux rares. Il y a beaucoup de recherche et développement sur les terres rares et on développe des prototypes pour des batteries sans terre rare. Les nodules métalliques, c'était pour l'industrie automobile. Beaucoup de sociétés automobiles avec lesquelles j'interagis sont en train de faire des prototypes, une fabrication en 3D pour des matériaux biologiques recyclés pour la carrosserie des véhicules. Toutes les sociétés de construction automobile le font. On va vers des substituts biologiques. Ça se produit à travers le monde entier. Dans les Hauts-de-France, il y a un parc high-tech tout nouveau avec des chimistes et des généticiens ensemble. Et on développe des substituts biologiques pour toute la gamme des produits pétrochimiques. Et aussi pour remplacer les terres rares, les lubrifiants, des emballages,
à la place du kérosène
pour les avions, etc.
And steel.
Regardez par exemple pour le ciment et l'acier, c'est un gros problème, c'est
just
vrai. Cette semaine,
the largest steel company,
la plus grande société de production d'acier aux États-Unis, ils ont construit, ils fournissaient tout l'acier au cours du dernier centenaire.
Ils ont
maintenant toute leur usine fonctionne à l'énergie solaire.
All right? And the zero marginal cost. Once the
et le coût marginal zéro, une fois que l'investissement a été amorti, ben c'est
now,
zéro le coût marginal,
ago,
parce que
Bill
le
Gates
solaire et l'éolien n'envoient pas de facture.
Bill Gates
que tout le monde connaît,
va
faire une deuxième fortune déjà,
did,
il n'y en a pas besoin, mais bon. Ils ont utilisé l'intelligence artificielle, ils ont pris tous les réflecteurs, et ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour qu'ils réfléchissent vers un endroit précis pour créer. Ils ont créé en fait un système qui permettait d'avoir quasiment un tiers de l'énergie produite par le soleil. C'est-à-dire qu'on peut faire désormais du ciment, produire du ciment et les matériaux de construction et de l'acier à coût marginal zéro. C'est il y a deux semaines. Vous pouvez le voir sur l'Internet. Voilà deux exemples simples. Je vous en ai beaucoup plus. Les gens devraient poser cette question beaucoup plus souvent parce que ça met la pression sur les industries lourdes. Mais si on répond « Ah, ben, on ne peut pas le faire », ce sont des gens qui sont contre. Mais non, moi j'aime bien que la question soit posée pour qu'on avance. Est-ce que l'industrie veut qu'on reste dans l'énergie fossile? Oui. Est-ce qu'ils veulent une extinction de l'humanité? C'est une façon simple de dire que rien ne doit changer. Mais si, tout doit changer. Parce que, en posant des questions, c'est exactement comme ça que les choses vont bouger.
OK. Une dernière question, Jérémy. Vous faites la démonstration dans votre bouquin. Vous expliquez comment le New Deal vert va contribuer à l'émancipation de la femme.
To the emancipation of women.
Oh, good for you.
Alors, bravo.
Yeah, you're only
bonne nouvelle.
Like the second person. I think you may be the you're the first. No, there was one other.
Non, vous êtes probablement la première. Non, vous êtes la deuxième personne qui parle des femmes.
I just gave you an A minus.
Ah,
but
great.
No one gets an A.
Non, personne ne reçoit la note de 20 sur 20. Je vais vous donner 19 sur 20.
Wow. Allez.
Okay. Thank you for asking that question.
Merci de poser cette question. Allez-y, terminez votre question.
Oui, non, en fait, dans votre livre, vous dites que vous soulignez qu'il y a environ 1,1 milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'électricité.
Human beings with no access to electricity.
Et que grâce à la diminution du coût des installations solaires et éoliennes, l'ensemble des pays en voie de développement vont être électrifiés et que cela aura un impact fort sur l'émancipation de la femme. Pourquoi?
L'année dernière, deux tiers du solaire et de l'éolien, c'était les pays en voie de développement, contrairement à ce que pensent les gens. Beaucoup de gens me disent, on a trop de population. Il y a 7 milliards, on va vers 9 milliards d'individus. On utilise une terre et demie. Mais ce n'est pas quelque chose de durable. Ce n'est pas durable. Alors que faisons-nous? Que devons-nous faire? Ce qui est intéressant, c'est de comprendre la relation entre l'électricité et la libération des femmes. C'est dans mes livres, mais ce n'est pas dans les autres. Donc ce qui se produit, c'est que, avant l'électricité, les femmes étaient les esclaves à travers l'histoire depuis l'époque agricole. C'était elles qui devaient faire attention au feu, maintenir le feu dans le foyer, apporter de l'eau, etc. À partir du 19e siècle, elles sont allées à l'école, mais elles devaient s'occuper finalement quand même de la maison. Lorsque l'électricité est arrivée, et avec le mouvement des suffragettes, l'électricité a libéré ces femmes et les a envoyées à l'école. Parce que l'électricité, ça signifiait qu'elles ne devraient pas être coincées à la maison, à faire attention à maintenir le feu dans l'âtre. Elles pouvaient aller à l'école, au lycée, à la fac. L'électricité a créé des nouveaux emplois. On n'avait plus besoin de la force physique. On avait besoin d'énergie mentale, que ce soit des employés de bureau. Les femmes ont pu avoir ces emplois. Lorsque les femmes deviennent plus indépendantes, l'électricité les a libérées, et grâce aux suffragettes, lorsque les femmes deviennent plus indépendantes, mieux formées, plus autonomes, et il y avait moins d'enfants. Et on le voit dans les pays industrialisés, où lorsque les femmes sont finalement reconnues comme faisant partie de la force de travail, eh bien, la population se réduit. Et quand on va vers les pays en voie de développement, quand on voit les sociétés les plus brutalement patriarcales, pas d'électricité, les femmes sont coincées chez elles, elles ont beaucoup d'enfants, elles restent à la maison, parce que chaque fois qu'elles mettent au monde un enfant, elles sont à nouveau enceintes. C'est très brutal. Ce qui va les libérer, c'est l'électricité. Ce sont les jeunes femmes de votre génération qui vont dans l'Inde rurale, qui sont en Afrique, qui créent des coopératives et qui créent des sources d'énergie avec le solaire et l'éolien. C'est très simple. Elles vont dans ces villages où il n'y a pas d'électricité. Elles louent, par exemple, un panneau solaire et il y a de l'électricité. Et ce panneau solaire va donner de l'énergie pour les téléphones cellulaires. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, vous pouvez envoyer, disons, $1 pour la location de ces panneaux solaires. Et ça vaut mieux que de payer ce dollar à l'énergie solaire plutôt que de le payer pour du kérosène qui tue vos familles, finalement. Et puis, etc. Ça se construit petit à petit. Et il y a 200 des lieux de création, des lieux de génération de l'énergie. Et ça coûte très, très peu. Vous savez, il y a quelques années, lorsqu'il y a eu une panne d'électricité énorme en Inde, eh bien, ces villages où ils avaient des réseaux d'énergie distribués, tous ces gens qui avaient des machines à coudre, qui avaient des lave-linges, des lave-vaisselles, eh bien, ils ont continué à fonctionner parce que dans ces petits villages, l'énergie était distribuée. Et c'est ça l'avenir.
One last question. Jeremy, it's a very personal question. C'est une question personnelle. Ah. qu'est-ce qui fait que vous faites ce que vous faites aujourd'hui,
what
compte tenu de votre histoire?
Vous êtes
le fils d'un industriel.
You're the son of an industrialist.
Vous avez investi
you're
votre vie, votre carrière dans l'écologie et les mouvements pour la paix. Qu'est-ce qui fait ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin?
What makes you getting up in the morning?
If my dad's listening up there,
J'espère que mon papa écoute de là-haut. Mon père était le premier à mettre en place les sacs en plastique. Il y avait quoi? C'était une petite industrie, il y avait une dizaine ou une quinzaine de personnes. C'était dans les années 1950. Personne ne savait ce qu'était le changement climatique à l'époque. Sa société a grossi un petit peu. Parce que les prix du pétrole ont augmenté, il y avait une récession. Je ne sais pas ce qui influence les gens. Ma mère était un bon mentor. Elle nous a amenés à réfléchir dans les années 30 et 40. Et je me souviens dans le mouvement des années civiques, dans les années 50, elle a acheté un livre de John Edward Griffin. C'était un blanc qui s'était grimé en noir pour vivre dans un monde des Afro-Américains. Il a écrit un livre qui est devenu un best-seller sur ce qu'était la vie des Noirs aux États-Unis. Ma mère a acheté des centaines de ces livres et forçait les gens à les lire. Et elle soutenait les luttes pour les mouvements des droits civiques dans le sud des États-Unis. Et c'est elle qui nous a fait connaître la communauté gay. Vous vous rendez compte?
Ah oui.
Et puis les gens qui elle invitait des gays à la maison. Elle a changé la façon dont on se nourrissait à la maison.
C'est génial.
Vous savez, elle disait, voilà, non, on ne faisait pas frire, il n'y avait pas de soda sucré, des trucs comme ça. On ne s'est pas rendu compte à l'époque ce qu'elle faisait. Pour nous, ça semblait normal. Elle n'est plus avec nous, mais il faut la remercier. Et puis il y a eu la guerre du Vietnam. Moi, j'avais jamais eu l'intention de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais lorsque la guerre est arrivée, j'ai suivi une classe sur le Vietnam à ma fac, l'Université de Pennsylvanie, où j'ai fini par enseigner des années plus tard. Toutes les choses qu'on nous a dit sur le Vietnam étaient fausses. Le Vietnam et la Chine n'étaient pas ennemis. Enfin, on nous a raconté des histoires. J'ai grandi au sud de Chicago dans un quartier de la classe ouvrière. Nos voisins travaillaient dans l'industrie de l'acier en tant qu'ouvriers. C'était des agents de la police et des gens comme ça. Et la plupart des jeunes de mon quartier sont allés faire la guerre au Vietnam. Ils ne sont pas allés à l'université. Quand ils sont venus, en ayant perdu un bras, une jambe, ils nous ont dit, n'y allez pas, ne croyez pas ce qu'on vous dit, n'y allez pas. Et une chose a mené l'autre. Moi, je suis allé à l'université. Il n'y avait pas un plan de carrière. Et moi, je m'occupais. J'étais dans une équipe de bénévoles. Rien n'était planifié dans ma vie. Il n'y avait pas de carrière. Je ne sais pas comment vous répondre. Ce n'est pas tellement intéressant, finalement. Mais je dirais aux jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant d'aller manifester dans les rues. Il faut le faire, oui. Il faut être non-violent, continuer à manifester avec des centaines de milliers de jeunes dans les rues. Mais si vous pensez qu'il suffit de demander au gouvernement de le faire à votre place, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que la vieille génération s'en fiche. Non. Ils ne sont simplement pas au point où vous en êtes du point de vue de la compréhension de ce qui devrait être fait. Thomas Paine, un grand révolutionnaire américain, lui, il a écrit Le Bon Sens 1, c'est le premier bouquin. Moi, j'ai écrit Le Bon Sens numéro 2. Thomas Paine a dit, chaque génération doit être libre de refaire le monde à nouveau et ne pas être emprisonné par les ancêtres qui se trouvent dans les tombes. Oui, bien sûr. Il faut peut-être apprendre les leçons, mais il faut préparer le monde pour la génération à venir. Je dis aux jeunes, restez, manifestez, mais vous savez, il y a Alexandra Cortez aux États-Unis, c'est le plus jeune membre du Congrès aux États-Unis. Il faut faire comme elle.
Il faut faire,
vous savez, la première ministre de la Finlande, la plus jeune des premiers ministres finlandaises. Donc, je dis aux millions de jeunes, il faut que vous vous présentiez aux élections, il faut militer dans les ONG, il faut aller dans les coopératives, il faut être dans les lycées et faire sortir la vieille génération et prendre les manettes. Ce n'est plus leur temps, c'est votre temps. Personne ne le fera pour vous. C'est à vous de le faire.
Eh bien, écoutez, Jérémy Rifkin, merci beaucoup pour ces mots forts et puissants et qui nous donnent envie d'y aller.
Merci d'avoir lu le livre.
Écoutez, avec joie, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Il est très riche, très dense. Oui, avec joie. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à y mettre des étoiles. Je vous rappelle le titre du livre de Jérémy Rifkin, Le New Deal Vert Mondial, Pourquoi la civilisation fossile va s'effondrer d'ici 2028 et le plan économique pour sauver la planète, publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Je vous donne rendez-vous sur blooming.fr où vous retrouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes, et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur.